Vous écoutez France Culture.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation sur France Culture. Aujourd'hui, l'enfant face aux écrans et l'école face aux écrans. Nous parlons de la relation entre le numérique et les apprentissages avec deux chercheurs, Elena Pasquinelli et Olivier Houdet. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 sur France Culture. Attachée de production Geneviève Méric, Dany Journeau est à la réalisation aujourd'hui. À la prise de son, Alexandre Dang. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster tous les numéros de Rue des Écoles sur franceculture.fr pendant 1000 jours. Sur ce même site, à la page de Rue des Écoles, vous pouvez nous laisser vos commentaires. Et vous pouvez également le faire sur Twitter, hashtag RDE. Bref, la radio est aussi sur vos écrans. Que peut-on faire d'intelligent avec les écrans quand on est un éducateur? Comment en tirer parti? Loin de s'extasier devant l'apparente habileté des tout-petits à manipuler des outils encore récents pour les adultes et sans paniquer devant l'immense séduction de ces écrans qui ont désormais envahi nos vies. Peut-être faut-il faire face. Accepter que ces appareils font aujourd'hui partie de notre civilisation, que ces technologies ont été créées pour répondre à des besoins, communication, information, et aussi pour nous distraire et dire que ce sont des outils que l'on peut utiliser en conscience et mettre au service de notre intelligence. C'est cette sagesse numérique, me semble-t-il, que propose de développer l'Académie des sciences lors du récent avis qui a été publié cette semaine aux éditions Le Pommier, l'enfant et les écrans. L'Académie nous propose un chemin qui nous demande de nous impliquer tous, éducateurs et enfants. Bonjour Olivier Houdet.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes, directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, l'APSIDE, du CNRS, à la Sorbonne. Bonjour Elena Pasquinelli.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en sciences cognitives à l'Institut Jean-Nico, HESS-ENS-CNRS. Vous êtes membre associé de la fondation La Main à la pâte. Alors la main à la pâte, on connaît bien à Rue des Écoles. La main à la pâte propose des modules pédagogiques, des expériences scientifiques à réaliser en classe avec les enfants pour qu'ils se fassent une idée de ce que sont les manifestations physiques qui ont permis à la science de naître et qu'ils comprennent ce que c'est. La main à la pâte s'intéresse donc au numérique. Alors en quoi consistent les modules pédagogiques que vous proposez aujourd'hui à la main à la pâte aux enseignants?
Ce module s'inscrit dans la continuité avec d'autres actions de la main à la pâte, et notamment des actions d'éducation à la santé à travers l'éducation à la science. Une éducation à la santé au sens très large, éduquer à bien vivre avec son environnement, avec les autres. Or, de cet environnement font partie, de manière de plus en plus importante, même pour des enfants très jeunes, les écrans. On a donc pensé que c'était important pour la main à la pâte de s'attaquer à une meilleure compréhension de ce qui se passe quand l'enfant interagit avec les écrans et de guider, aider l'enfant à comprendre ce qui se passe quand il interagit avec ces nouveaux objets qui pour lui ne sont plus tellement, ne sont pas tellement nouveaux. On l'a fait avec le même esprit qu'avec les autres modules de la main à la pâte, en mettant l'enfant au centre de ses apprentissages, en faisant un pari sur son intelligence, sur sa capacité d'observer, d'explorer, d'expérimenter, de débattre et de réfléchir, sur sa capacité de raisonner et aussi sur sa grande curiosité. Curiosité pour ces objets qui l'entourent, qu'il a dans ses mains, qu'il voit dans les mains de ses parents, de ses amis, mais aussi curiosité pour son propre monde mental, pour ce qui se passe dans sa tête, dans son cerveau, quand il interagit avec le monde et avec ses outils.
La perception, l'attention, la mémoire, on va y revenir. Olivier Houdet, en préparant cette émission, j'ai vu que vous aviez été instituteur. Alors comment, petite virgule hein, dans l'émission. Comment on passe d'instituteur à chercheur en psychologie du développement des enfants?
Une demi-heure d'émission sera très court, mais à la fin de mes études d'instituteur, on avait l'opportunité à l'école normale de faire un mémoire de recherche pour certains élèves. Et étant plutôt artiste peintre de vocation première, j'ai choisi comme livre un livre qui avait trait à l'image, au figuratif, et qui s'appelle « La formation du symbole » de Jean Piaget, publié en 1945. Et ce fut une révélation parce que allant vers les images, le dessin, la pensée symbolique, j'ai découvert qu'il existait, et c'est lié au sujet du jour, une psychologie scientifique, une science d'étude de l'enfant, du développement de l'intelligence. Et ce fut une révélation à l'âge de 20 ans. 20 ans, c'est un peu tard. Et donc, par exemple, dans ce module de la main à la pâte et dans ce rapport de l'Académie des sciences, on commence dès l'école maternelle à initier les enfants au cerveau, aux écrans, et à créer cette conscience et cette sagesse numérique que vous évoquez pour qu'ils découvrent très tôt qu'il y a non seulement une science physique, une science chimique, mais également une science de la psychologie, des processus cognitifs et des rapports entre cerveau et informatique, donc les écrans.
On va faire réfléchir les enfants. Alors, une institutrice, une professeure des écoles, comme on dit aujourd'hui, j'en ai interviewé une hier au téléphone. Elle s'appelle Véronique et elle utilise des tablettes numériques dans sa classe de petits en maternelle à Paris. Véronique Favre, vous êtes professeure des écoles dans une école parisienne. Vous enseignez aux petits et aux moyens à la maternelle et vous avez monté un projet pédagogique avec des tablettes numériques. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire la façon dont cela se passe? Comment les enfants travaillent collectivement sur ces outils?
Collectivement, en regroupement, c'est-à-dire tous les enfants assis sur les bancs, on va pouvoir regarder des photos. Je peux brancher aussi cette tablette sur un vidéoprojecteur pour permettre une plus grande surface de projection et que tout le monde voit bien.
Comment, quand on est un petit enfant de 3 ans, 4 ans, on produit un objet numérique?
Alors, quand on est un petit enfant, on va créer des livres en s'enregistrant. La maîtresse, pour l'instant, insère les images et puis se réécouter, se corriger. Et créer des petits films également en autonomie, en animant des personnages sur un fond, sur une scène, et en racontant, même chose, priorité à l'oral en maternelle.
Priorité à l'oral en maternelle, on dit souvent que la maternelle, c'est l'école du langage, c'est aussi l'école de la praxis, de la manipulation. Ces objets numériques ne désincarnent-ils pas les échanges? Ne font-ils pas perdre un certain temps à ces pratiques plus traditionnelles de la maternelle?
C'est très très juste de pointer là-dessus et en effet, il est incontournable, il est juste indispensable que les enfants continuent de manipuler.
Bon, il y a quand même une limite, c'est le prix de ces outils. Vous, combien de tablettes avez-vous dans votre classe et comment vous vous êtes débrouillé pour les avoir? Est-ce que c'est généralisable à toute votre école?
En effet, ce sont des objets de prix et c'est dans le cadre d'une expérimentation, c'est pourquoi je peux bénéficier de 4 tablettes prêtées par l'Académie de Paris. J'ai bien conscience de ma chance et de l'exception que ça peut représenter. Maintenant, je fonde beaucoup d'espoir sur l'école numérique et la refondation pour pouvoir équiper, pourquoi pas, le plus d'écoles possible.
Donc, vous êtes très enthousiaste, on l'entend, les élèves ont dû l'être. On l'imagine. Qu'en est-il de la réaction des parents et puis de vos collègues?
Le même enthousiasme de la part des parents. Quelques réticences, je ne vous le cache pas, sur le temps. Le temps d'écran, en effet, que les enfants passeraient devant l'écran. Maintenant, je n'ai que 4 tablettes dans la classe. Donc les enfants ne sont pas toute la journée, c'est à moi de réguler, c'est à moi de doser, tout comme je régule les autres activités de la classe. Les collègues, ça suscite de l'envie, c'est sûr, pas une envie jalouse, hein, c'est pas ça du tout, mais une motivation à se dire « Ah tiens, ce que tu fais, j'aimerais bien moi aussi faire des petits films aussi facilement, des petits livres comme ça, et puis les applications que tu as trouvées, etc. »
Qu'est-ce que les tablettes peuvent vous permettre de faire que vous ne pouviez pas faire avant?
Ce que je faisais avant, mais beaucoup plus laborieusement, c'est du montage avec des sons, avec les enregistrements des enfants. J'utilisais auparavant un enregistreur numérique. Je devais travailler ce son sur mon ordinateur le soir en rentrant à la maison, faire du montage, associer ce son à ces images. Autant d'activités dont les enfants étaient exclus. Donc c'était un peu beaucoup le travail de la maîtresse pour avoir un produit fini duquel il soit fier à transmettre aux parents en termes de liens école-famille. ça me permet voilà, de montrer aux parents un objet qui a été fait par les enfants, par les élèves, en classe, et de manière le plus souvent autonome. On travaille l'autonomie, on les amène à faire seul, on les aide à faire seul.
À faire seul, alors Olivier Houdet, j'ai pas choisi cet exemple par hasard. On parle de tablettes, on parle d'enfants très petits, environ 3 ans. Vous, dans ce rapport, donc l'enfant et les écrans, vous dites que les tablettes, c'est un outil pédagogiquement intéressant, assez riche, et qu'on peut même développer des programmes spécifiques, des programmes d'apprentissage en relation avec les neurosciences.
Absolument. Pour faire un commentaire sur le reportage que l'on vient d'entendre, l'institutrice dit à la fin « leur apprendre à faire seul », c'est extrêmement bien formulé. C'est ce que l'on préconise comme l'une des clés dans le rapport de l'Académie des sciences, ce qu'on appelle apprendre l'autorégulation, mais ça ne se fait pas miraculeusement.
Ah, mais c'est même la colonne vertébrale
c'est la colonne
de cette
vertébrale.
Réflexion.
Et au point de vue du point de vue des neurosciences, c'est une partie du cerveau des enfants et des nôtres adultes. Qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est une partie de notre cerveau qui nous permet précisément de contrôler nos impulsions, d'inhiber nos automatismes perceptifs et moteurs par rapport à un écran. Et tout cela sont des exercices qui ne sont pas des connaissances scolaires en tant que telles, mais qui sont des mécanismes d'apprendre à faire seul, d'apprendre à se réguler par rapport aux écrans. Et donc l'esprit de ce rapport de l'Académie des sciences, qui est le résultat d'un travail intense de réflexion pluridisciplinaire, sous la direction de Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de la sous la direction de Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, de Pierre Léna et de Serge Tisseron, ce travail a consisté à se dire que, bien évidemment, et on les souligne très clairement, il y a des aspects négatifs dans l'exposition aux écrans, problèmes potentiels de pratique excessive, troubles du sommeil, fatigue visuelle, manque d'exercice physique et social réel. Mais l'originalité du rapport est de dire qu'un usage, en effet, intelligent des écrans est possible, qu'il ne s'agit pas de pasteuriser l'environnement numérique ni d'enfermer les enfants dans des bulles sans écran, mais dès lors, il faut commencer cette éducation très tôt. L'exemple que vous avez donné dès l'école maternelle est un bel exemple, mais ça partira encore plus tôt. Ça démarrera dès sans doute avant 2 ans, puisque l'intelligence du bébé est très sensorimotrice. Ce sont les premières régions qui sont matures dans son cerveau. Donc c'est irrépressible pour un bébé de toucher du doigt ce qu'il voit sur une tablette, d'observer les effets du mouvement de son doigt. Ça peut intérioriser mentalement et rendre son intelligence fluide, rapide. En même temps, il faut qu'il apprenne à se contrôler, à s'autoréguler.
Mais ça, c'est dans un monde idéal, excusez-moi, où les programmes qu'on proposerait sur ces tablettes seraient des programmes qui stimulent l'intelligence. Or, ce n'est pas acquis. Les gens qui les commercialisent, leur intérêt, c'est plutôt de les vendre, stimuler l'intelligence.
Bon, vous avez 1000 fois raison. Là, la réflexion est sur la nature du support, qui est tactile et visuel. Mmh. Après, ça veut donc dire que le support peut être très intuitif, très interactif, mais un travail énorme reste à faire aujourd'hui des sciences de l'éducation, en lien avec la psychologie expérimentale de l'enfant, des neurosciences, pour essayer de rendre intelligentes les activités que l'on fait sur les écrans. Mais rendre intelligent, ce n'est pas seulement apprendre des maths, apprendre à lire, c'est aussi apprendre à raisonner sur son cerveau et sur les écrans, et à développer, apprendre à apprendre en quelque sorte, à développer les fonctions de sélection d'informations, de tri d'informations. Et c'est tout cela que, de façon très pratique, et Elena va certainement préciser les choses, des modules pédagogiques ont été faits sur le contrôle des automatismes, l'attention, la conscience du temps qui passe, pour décliner cela en leçons à l'école.
Je remercie Olivier. J'aimerais commenter sur ce qu'il vient de dire sur l'importance de comprendre le fonctionnement du cerveau, et les fonctions qu'on appelle cognitives. On a dit la perception, la mémoire, l'attention, l'autorégulation, le contrôle, pour mieux comprendre comment opérer à l'école, que ce soit avec des technologies numériques ou sans technologie numérique. Je pense que le message est plus large encore que celui de la bonne utilisation de ces technologies qui arrivent dans nos vies comme elles arrivent à l'école. Pour comprendre comment utiliser ces technologies, comprendre comment fonctionne le cerveau est très important. Ça peut nous dire quelles sont les limites, quelles sont les bonnes orientations, les bonnes utilisations de ce genre d'outils. Non seulement à quel âge commencer, mais aussi quels éléments de distraction elles peuvent insérer dans un parcours pédagogique ou quelles aides, quelles simplifications elles peuvent apporter. Mais cette considération est beaucoup plus générale. Elle investit toute action à l'école. Comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des élèves et dans le cerveau des enseignants aide à mieux comprendre quel type d'actions pédagogiques peuvent le mieux aller à l'encontre de ses fonctions cognitives, du fonctionnement de l'enfant, et donc le mieux être apprécié, le mieux être implémenté et donner les meilleurs fruits éducatifs. Je pense que c'est une plaidoirie pour une rencontre fructueuse et intelligente entre les sciences qui étudient la cognition et les sciences qui étudient l'éducation et la pratique éducative.
Et cette rencontre, elle en est encore à ses débuts.
Est à ses débuts, mais il y a déjà quelques années de ce croisement original. Je vous donne un exemple. Donc, dans le manuel pédagogique publié comme le rapport de l'Académie des sciences aux éditions Le Pommier, vous avez la séance numéro 20 que j'ai sous les yeux et qui s'appelle « Un regard sur le cerveau ». Et cette séance, page 129, module pédagogique, on voit une photographie que je décris pour les auditeurs où un enfant découvre avec un scientifique son propre cerveau sur l'écran. Et ça, c'est une expérience que nous avons réalisée dans notre laboratoire avec des enfants de grande section maternelle dont je peux vous dire qu'ils sont absolument passionnés par ces expériences. On est parvenu de façon ludique et volontaire à leur faire passer des IRM où ils sont totalement immobiles. On les entraîne au jeu de la statue avant à l'école pour rester immobiles dans l'IRM. On enregistre l'activité de leur cerveau pendant qu'ils résolvent des tâches sur des écrans d'ordinateurs qui leur sont diffusés via une technologie particulière dans la caméra. Après, l'enfant découvre son cerveau, peut voir que selon la réponse qu'il a donnée, le raisonnement qu'il a mené, c'est telle ou telle partie de son propre cerveau qui s'active. Vous imaginez, on va dire, le choc épistémologique pour les jeunes enfants, c'est que vous me parliez de ma découverte de la psychologie à 20 ans quand j'étais instituteur. On peut créer des phénomènes comme cela dès l'école maternelle. Et c'est bien ça l'esprit, en effet, de la Fondation de la main à la pâte, qui l'a fait pour d'autres disciplines scientifiques. Alors pourquoi autour des écrans? Parce que l'écran est devenu un problème majeur d'éducation publique, mais il est vrai que ça va au-delà des écrans eux-mêmes et il ne faut pas en soi avoir peur des écrans, mais il faut apprendre aux enfants à les utiliser grâce à une meilleure connaissance scientifique de leur cerveau et de la psychologie de l'enfant. C'est donc une conscience réflexive sur leur propre fonctionnement.
Une conscience réflexive pour faire face à ce que vous appelez une révolution neuroculturelle qui serait causée par des écrans, du numérique présent à tous les moments de la vie et pratiquement partout, de plus en plus. De toute façon, c'est amené à se développer. On ne sait pas quelles seront les révolutions de demain. On aura peut-être des images en trois dimensions qui se baladeront devant nos yeux dans l'espace.
Des tablettes déformables.
Par exemple, on peut rêver un petit peu. Olivier Houdet, là on parle des enfants qui sont tout petits aujourd'hui et on peut chercher à les éduquer mieux. C'est aussi parce qu'on a une expérience par rapport à des adolescents, par rapport à des jeunes gens et même nous, la façon dont nous comportons avec les objets numériques. On a eu du mal à s'adapter. On va peut-être passer à une phase plus consciente.
C'est l'une des choses que l'on pointe dans le rapport. L'aspect positif que l'on peut observer chez les adolescents, jeunes adultes, c'est qu'en effet, ils ont, grâce à ces interactions intenses et multiples avec des écrans, développé une forme de pensée, d'intelligence qui est très fluide, rapide, multitâche, mais que du point de vue de la construction de la mémoire dans le cerveau et de sa structuration, cela peut aussi entraîner le fait que, par exemple, ça a été très bien mesuré en psychologie expérimentale, les adolescents retiennent plutôt les liens sur les moteurs de recherche que le contenu en profondeur des informations eux-mêmes et la synthèse personnelle qu'ils pourraient en faire. Donc, il faut aussi continuer de leur apprendre cette pensée plus lente, linéaire, profonde, issue de l'imprimerie et de la renaissance de développement de cette pensée profonde et linéaire à grande échelle. Et l'enjeu éducatif aujourd'hui, c'est de leur apprendre à combiner les deux. Il ne faut pas les opposer, puisqu'il y a aussi, à travers les e-books par exemple, vous pouvez aussi sur écran redévelopper cette pensée plus lente et linéaire. Et il y a un réel enjeu éducatif. Alors, on peut dire on a perdu 10 ans, mais 10 ans, c'est très court par rapport d'abord à l'histoire du cerveau, qui est en millions d'années, qui bien évidemment s'adaptera aux écrans comme il s'est adapté à l'écriture, à l'imprimerie. Il doit simplement intégrer le rapport aux écrans dans ses Enfin, c'est pas simple, hein. Je dis simplement, il y a un vrai travail de l'éducation, des écoles et des professeurs. Mais le cerveau va arriver, en quelques décennies, à bien intégrer le rapport aux écrans dans ces circuits neuronaux qu'on appelle neuroculturels. Mais, une fois de plus, ça ne se fera pas tout seul. Et il faut, comme le relatait cette institutrice, elle l'a fait spontanément, là, on suggère, disons, un cadre scientifique élaboré avec des modules pédagogiques, le faire de façon assez systématique à l'école, leur apprendre à combiner ces deux formes d'intelligence, numérique et non numérique, et à créer une intelligence sans doute inédite hein, par rapport aux générations précédentes. Mais on ne peut pas les laisser seuls face aux écrans. Je pense que la science et les éducateurs doivent les aider à relever ce défi.
Les éducateurs, parents et professeurs, quel est leur rôle? C'est de limiter, d'encadrer, d'aider les élèves à chercher. Parce que pour chercher, il faut savoir un peu ce qu'on cherche quand même. Ce n'est pas juste une affaire de lien. Ça, c'est la culture. Xavier Delaporte en parlait tout à l'heure sur cette antenne. On le dit ici, hein, l'intelligence linéaire, l'intelligence du livre, l'identité narrative dont parle si bien Paul Ricoeur, ce sont des choses encore très importantes à transmettre à l'école. Elena Pasquinelli.
Oui. Apprendre à réfléchir et apprendre à réfléchir ensemble et à débattre, c'est l'un des buts principaux de l'école. C'est l'un des buts aussi de ce type d'action pédagogique. Apprendre avec les collègues, les autres élèves, et apprendre sous l'accompagnement et le guide de l'enseignant. C'est le pari qu'on a fait avec ces modules. Le pari est celui que l'enseignant, en s'appropriant de certaines connaissances, devient capable de guider l'enfant à la découverte active par lui-même du monde qui l'entoure, que ce soit le monde physique, le monde biologique, le monde de la psychologie. L'accompagne dans cette découverte déjà du questionnement. L'accompagne ensuite à chercher des moyens pour répondre à ces questionnements. C'est clair que l'enfant tout seul, sans connaissance, il ne pourrait pas se mettre sur la bonne piste. L'enseignant est fondamental dans ça, l'encadrement pédagogique. Mais à ce moment-là, l'enfant, il est capable d'observer, de réfléchir. On a fait ce pari dans des activités comme celle de la découverte de la perception ou de la découverte de l'attention et de ses limites, par exemple, en mettant l'enfant dans la situation d'expérimenter avec d'autres enfants, de voir quelles sont les limites de l'attention des autres. Il devient capable de considérer sa propre attention. Et une fois qu'on a découvert aussi l'attention, on peut réfléchir à comment cette fonction si merveilleuse et complexe est mise en cause dans l'interaction avec des objets divers et variés, y compris les écrans. Donc un moment qui suit à celui de l'observation, de l'expérimentation, est celui de la réflexion ensemble, entre élèves, un petit groupe, comme le disait l'enseignant, avant et après, dans la classe entière, et avec l'enseignant qui est impliqué dans cette réflexion et dans ce débat. Mais le débat, je pense, ne s'arrête pas ici. L'autre grand pari de ce module, de cette activité, d'autres activités de la main à la pâte, est que le débat doit se poursuivre ensuite à la maison. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement avec ce module? Les enfants, après leurs activités de découverte et d'exploration, et après leur réflexion et après leur débat, ils synthétisent leurs connaissances. Mais ils font aussi quelque chose de plus. Ils produisent eux-mêmes des petites recommandations sur l'usage des écrans. Ces petites recommandations qui sont produites au fil du module, séance après séance, se termine à la fin dans une charte. Une charte pour le bon usage des écrans, pour l'usage raisonné. Raisonné parce qu'on a beaucoup raisonné au cours de l'année du projet sur ce que ça veut dire d'interagir avec des écrans, sur ce que ça veut dire d'avoir un cerveau qui fonctionne d'une certaine manière. Donc cette charte pour l'usage raisonné des écrans est pour nous, on l'a conçue comme une sorte de témoin, d'objet de passage pour que les enfants puissent ouvrir le débat sur ce qu'ils ont appris, sur ce qu'ils pensent et ils ont considéré avec leurs parents, en famille, avec les grands-parents qui s'occupent très souvent d'eux, avec les grands-sœurs, les grands-frères ou les petits-frères et les petites-sœurs. Donc, un outil pour rompre, pour casser cette sorte de barrière qui s'est créée des fois entre les adultes, que ce soit les éducateurs ou les parents, et les enfants, adultes qui pensent que les enfants en savent tellement des écrans qu'on n'a pas besoin de leur parler.
Vous cassez cette fameuse idée d'être digital native, ce qui serait naturellement doué, alors que bon...
Exactement, digital native, si on le prend...
On n'a pas de compétences naturelles.
Voilà, si on le prend dans un sens très factuel,
c'est... Il peut être doué, pardonnez-moi, pour la dextérité, Ça, c'est évident. Hein, ils utilisent de façon très habile les écrans, mais ce n'est pas pour autant qu'ils seront doués du point de vue de la connaissance qu'ils peuvent avoir, de leur rapport à l'écran, de leur capacité à se réguler par rapport aux écrans. Là, ils ne sont pas doués. C'est
absolument
vraiment l'objet et le but de l'éducation numérique en cette matière.
Les écrans ont été conçus pour être particulièrement facile à utiliser, particulièrement on dit naturel, des interfaces avec lesquelles, avec le toucher, on arrive à produire des effets immédiats. Ça nous donne, et ça donne surtout aux adultes, une impression de compétence de la part d'enfants très très petits. Mais c'est une compétence plus manuelle qu'intellectuelle dans l'usage de ces écrans. En fait, si vous faites le tour sur YouTube, vous voyez pas mal de chats qui font à peu près la même chose. C'est-à-dire qui tournent des pages d'une tablette sans pour cela
même
être des
natifs.
Même un singe
dans un zoo aux États-Unis, et les singes sont très intelligents. Hein,
il faut absolument.
Je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils ont une intelligence sans langage. Et même des singes, c'était publié cet été dans un grand quotidien, interagissent à travers les grilles de leur cage avec une tablette tactile. Donc on voit bien qu'il y a en effet une interaction manuelle possible, mais toute la construction cognitive autour de l'usage des écrans est à apprendre en famille et à l'école. Et cet apprentissage doit être guidé par, disons, les meilleures et plus actuelles données scientifiques de la psychologie, de la médecine et des sciences des écrans, c'est-à-dire de l'informatique.
Elena Pasquinelli, j'aime beaucoup cette histoire de charte hein, co-conçue par les enfants. On s'imagine que c'est peut-être plus efficace pour les aider à se limiter, puisqu'on doit se limiter. C'est aussi ce que dit l'avis de l'Académie des sciences. Il y a un parti pris pédagogique fort dans la main à la pâte, dans les expériences que vous proposez et même dans la vie. Un parti pris qui dit que l'enfant est co-constructeur de son savoir. Moi, je me suis demandé si ce parti pris n'était pas trop radical par rapport à beaucoup de pratiques enseignantes. Finalement, vous vous rapprochez beaucoup des pédagogies nouvelles, des pédagogies freinées.
Nouvelles, mais qui ont un siècle, qui reprennent une actualité forte par rapport à cette question des écrans. Souvenez-vous, Freinet avait des ateliers imprimerie, par exemple. Donc,
bien sûr,
à l'évidence, on pourrait redécliner ces pédagogies nouvelles sur la question des écrans.
Si vous pouviez me dire un truc sur la formation des enseignants.
Volontiers.
Un vrai sujet aujourd'hui, à l'heure où on va ouvrir les SP, les fameuses écoles supérieures du professorat et de l'éducation, à la rentrée.
Alors, rapidement, sur les pédagogies, on va dire, alternatives, type Freinet ou Montessori, bien évidemment qu'elles ont quelque chose à apporter sur cette question des écrans, mais il faut créer du neuf. C'est-à-dire qu'il faut articuler ces pédagogies ou ce type de pédagogie avec les données, elles, toutes récentes, des neurosciences cognitives, de la psychologie expérimentale, sur les mécanismes d'apprentissage du cerveau. Et là, au sujet des écrans, on peut vraiment faire des merveilles. Le problème serait plus ce que vous évoquez, c'est-à-dire la formation des maîtres, qui sont évidemment, eux, également très curieux. Toutes les expériences pilotes que l'on a menées sur ces questions se sont faites avec l'Éducation nationale, en partenariat avec le soutien des professeurs des écoles, des directeurs d'établissements, très souvent en amont, avec l'appui très fort des inspecteurs et des recteurs. Donc, il y a un réel travail à faire. Et à l'évidence, ces données de la psychologie expérimentale de l'enfant, des sciences informatiques et des neurosciences doivent être intégrées dans la formation des maîtres qui eux-mêmes n'étaient pas si longtemps que cela, des ados et des enfants totalement immergés dans les écrans. Donc je pense qu'il y a, et il faut le dire sur cette antenne, urgence à intégrer ces questions, ces notions et les apports scientifiques encore modestes. Mais le rapport de l'Académie des sciences fait quand même plus de 250 pages. Ce n'est pas que de l'abstraction puisqu'il est assorti
à
22 séances pédagogiques et à des recommandations. 26 recommandations extrêmement précises. Nous avons fait, j'y ai notamment contribué, un tableau synoptique âge par âge de 0 à 2 ans, de 2 à 6 ans, de 6 à 12 ans et ados, avec des recommandations très précises, équilibrant au mieux les aspects négatifs et positifs. Tout cela pourrait en quelque sorte être intégré dans la formation des professeurs des écoles.
J'avais choisi aujourd'hui de parler davantage de l'école et de la pédagogie. Vous savez qu'on est écouté au ministère de l'Éducation nationale, donc vos recommandations sur le plan de la formation des professeurs seront peut-être entendues. C'est ce que nous pouvons souhaiter aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier Houdet. Donc, vous avez co-signé avec Jean-François Bach, Pierre Léna et Serge Tisseron, L'enfant et les écrans, publié cette semaine aux éditions du Pommier. Et le petit manuel pédagogique de la fondation La main à la pâte, Elena Pasquinelli, est paru également cette semaine aux éditions du Pommier. également. Merci donc beaucoup à tous les deux. J'indique aussi à nos auditeurs un dossier d'Isabelle Lassalle sur franceculture.fr sur l'enfant et les écrans. Tout de suite, on quitte les écrans et on voyage en littérature. Carnet nomade de Colette Fellousse.